Les rendez-vous, the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio. Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous,
les sans les roues,
les.
C'est donc.
Les lents, lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio. Marhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Très chères auditrices et auditeurs, bienvenue à cette nouvelle émission des Rendez-vous de l'Opéra Studio. Je reçois aujourd'hui une toute jeune artiste, la talentueuse soprano Alicia Anshaw. Dans ce studio également présent, l'un de nos pianistes chefs de chant Opéra Studio, vous le connaissez bien déjà, il s'agit de Hugo Mathieu. Bonjour Hugo.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Alicia.
Bonjour Sandrine.
Alors, tout de suite, la première question pour mieux connaître ton parcours, chère Alicia. Depuis quand fais-tu de la musique ?
En fait, ma mère me dit que j'ai toujours chanté, d'abord avec les chansons de Disney, mais j'ai commencé des cours de chant à environ 8 ans, je crois, parce qu'il y avait une enseignante parapétique à mon école primaire.
D'accord, très bien. Et donc, quel a été finalement l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé chanter ou bien, en fait, c'était naturel, tu as toujours aimé chanter et puis c'était comme ça?
Oui, c'était un peu naturel pour moi. Il n'y avait pas un élément spécifique. En fait, j'ai toujours aimé la musique et de chanter plus que les autres passe-temps et les autres sujets. J'aimais la sensation de chanter, j'aime encore la sensation de chanter, et de faire la musique. Alors le choix d'être chanteuse, de devenir chanteuse professionnelle était oui, naturel.
Ah oui, moi. C'était une évidence finalement,
ouais,
c'était,
ouais.
C'était comme ça, oui, tu es née chanteuse, voilà,
oui,
c'est
peut-être.
Très bien. Et ton premier souvenir musical, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu devais être très très jeune, puisque maintenant tu es encore très jeune, mais est-ce que, aussi loin que tu puisses te souvenir, il y a eu quelque chose qui t'a marqué dans ton enfance?
Oui, en fait, mon premier solo devant un public, c'était mon premier souvenir musical. C'était quand j'étais très petite, à environ, oui, je pense, 5 ans.
Ah oui.
J'ai joué le rôle d'une bergère dans le spectacle de la Nativité pour Noël à mon école. Et en fait, je ne voulais pas être bergère parce que je pensais que les bergers sont toujours mâles.
Ah, les hommes. D'accord, sont toujours des hommes. Ah oui.
Oui. Alors, ma mère m'a donné une écharpe rose à porter sur la tête. Et c'était comme ça que j'ai fait mon premier solo devant un public. Une chanson très courte où j'ai parlé d'être la seule personne qui ne pas s'être réveillée quand les anges sont arrivés.
Oh mince alors, tu dormais trop bien.
J'étais toute seule, ouais.
Mais tu avais une écharpe rose, donc tout le monde savait que tu étais une bergère.
Oui,
heureux. Voilà.
Sûr.
Non, mais c'est très important. Très important, surtout quand on est enfant. Et comment, alors donc après, évidemment, tu as dû prendre des cours de chant, j'imagine, bien sûr. Comment as-tu choisi ton professeur de chant et comment s'est passé ton premier cours de chant? Est-ce que tu t'en souviens?
Oui, en fait, je pense que c'était ma mère qui a choisi le professeur. Je ne souviens pas beaucoup le premier cours, mais je me souviens qu'après le cours, l'enseignant a appelé ma mère pour lui dire que j'avais une bonne voix et qu'elle voulait m'enseigner.
Okay, voilà, très bien, qu'elle voulait poursuivre les cours avec toi.
Ouais.
Je pense qu'elle a eu bien raison, la preuve en est, tu es ici aujourd'hui. Et est-ce que dans ta famille, certaines personnes faisaient de la musique ou bien dans ton entourage?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Ma famille me soutient beaucoup, bien sûr. Et j'aimerais penser qu'il aime la musique classique maintenant, ou il apprécie la musique classique ou l'opéra, mais ils ne sont pas de musiciens. Mon père est ingénieur et ma mère est professeure. Et je pense pour eux, c'était un peu bizarre d'avoir un enfant musical au début.
Oui.
Ils ne savaient pas ce qu'à faire avec moi. Mais j'avais beaucoup de la chance que ma mère m'a trouvé des professeurs et des opportunités formidables pour ma formation.
C'est ça, ils ont vu que c'était sérieux, que ce n'était pas une...
Oui.
C'était, n'était pas futile, enfin, que tu voulais vraiment faire ça. Ils ont vu que tu as étudié sérieusement, ça a dû les rassurer.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'une carrière artistique, ça fait toujours un petit peu peur aux parents.
Ouais,
parce que c'est,
ouais.
C'est un petit peu l'inconnu.
Oui, mais aussi, je pense que j'avais de la chance avec les professeurs aussi, que, oui. qu'il a vu ça.
Oui, tu es tombée sur les bons professeurs, tout ton chemin s'est déroulé sans encombre, mais c'est parfait. Nous allons écouter tout de suite la première musique que tu as choisie pour nous. Mm-hmm. Je ne la présente pas, et puis on en parle tout de suite après. Voici cet extrait donc, que tu as choisi pour nous, le célèbre Air des Clochettes, interprété par Sabine Devielle. L'Air des Clochettes est extrait du célèbre opéra L'Acmé de Léo Delibes, qui a d'ailleurs été programmé à l'Opéra National du Rhin cette saison. Et nous avons eu la joie d'avoir effectivement dans le rôle de L'Acmé, Sabine Devielle. Voilà, que tu as pu croiser d'ailleurs, je pense, que tu as pu rencontrer. Et donc, pourquoi as-tu choisi cette air, finalement, ce matin ?
Oui, j'ai disais que ma famille n'est pas musicale, mais c'était grâce à ma grand-mère que j'étais exposée à l'opéra pour la première fois. Elle m'a donné un CD qui a été offert gratuitement avec un journal des plus grands hits du monde d'opéra. Et globalement, c'était la musique bel canto, mais aussi un peu de Mozart, un peu de la musique baroque. Mais surtout les airs, les duos, les ensembles, les chœurs le plus connus d'opéra par les grands chanteurs de l'époque. Et l'un des premières pièces était l'air des clochettes, chanté par Mado Robin.
Oui.
Une star soprano très célébrée pour sa voix très aiguë. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai entendu cette manière de chanter avec toute la coloratura, les staccati et bien sûr les notes très hautes qu'on a souvent avec les sopranos.
Oui, c'est vrai.
Et j'étais complètement étonnée par la magie de l'écriture et la capacité de chanter comme ça. Alors, j'ai choisi cet enregistrement par Sabine Duviel parce que, à mon avis, sa voix a vraiment cette qualité de magique et elle m'inspire beaucoup. Et comme tu as dit, j'avais de la chance de l'entendre en vraie vie.
Ouais. Oui, c'est ça. Oui, en live, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai. Et donc, toi, tu es toi-même soprano. Donc, bien sûr, voilà pourquoi cette admiration aussi pour cet artiste.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà, qui chante un répertoire que tu chanteras, toi mm-hmm. aussi.
Oui, peut-être.
Voilà, mais bien sûr, ça, c'est évident. Et donc voilà, nous savons que tu es soprano, nous savons qu'un jour on viendra t'applaudir dans l'air des clochettes, ça c'est bien. Passons maintenant à ton expérience ici à l'Opéra Studio en ce moment. Tu es entrée à l'Opéra Studio en septembre de cette saison, c'est-à-dire en septembre 2023, et tu vas rester jusqu'à la fin de la saison 23-24 et même encore la saison prochaine. Ouais, ouais. Ça fait grand plaisir. Et donc, je voudrais savoir quelle a été pour toi ou quelles ont été pour toi les raisons pour lesquelles tu as voulu intégrer l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin.
Mm-hmm. Oui, j'ai toujours voulu rejoindre un Opéra Studio en Europe. Pour les chanteurs britanniques, c'est une voie très bien établie pour travailler dans les maisons d'opéra européennes et aussi d'apprendre une autre langue qui est très importante pour les chanteurs. Alors, j'ai fait plein de candidatures, mais principalement, je voulais une place en France parce que j'ai étudié français pendant quelques années à l'école. Alors, c'était le mieux langue étrangère que je parle.
Oui.
Et j'ai toujours aimé la musique française, la culture française. Et je disais que je voulais passer quelques années en habitant en France. Alors, un opéra studio était un bon moyen à faire ça. Mais principalement, j'ai trouvé l'environnement et l'éthique, l'éthos à l'Opéra du Rhin, très accueillante et encourageante. En fait, c'était ma première audition en dehors de Royaume-Uni, ici.
D'accord.
Mais j'ai réussi à apprécier l'expérience, quelque chose qui n'est pas toujours évident et facile avec les auditions.
Non, les auditions sont des exercices très difficiles. Il faut être prêt au moment où on nous dit que c'est à nous de chanter. Il faut être en forme. Et même si on a passé une mauvaise nuit, et même si on a voyagé la veille parce qu'on arrive de loin, ouais, etc. Oui, c'est très compliqué, mm-hmm, les auditions, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce recrutement, comment s'est-il organisé? Comment il a fallu faire concrètement pour arriver jusqu'au jour de l'audition pour venir chanter sur la scène de l'opéra?
Oui. Je pense que c'était des raisons pourquoi, pour moi, l'expérience de l'audition ici était bon, parce que j'avais plein de temps sur la salle de réchauffement.
D'accord.
Et j'ai pensé que le jury était très sympa, très...
Merci.
Merci, Sandrine.
Je
mais aussi, la maison à Strasbourg n'est pas trop grand.
Oui.
Je trouve l'acoustique est bien pour les chanteurs. Et aussi, j'ai resté dans un hôtel à Strasbourg avec une piscine et un sauna.
Oh, ah, mais voilà.
Alors, j'étais très...
très détendue finalement.
Ah, oui, c'est bien ça. C'était un peu comme un petit vacances.
Ah, bah, c'est bien. Fait, ouais. Oh, bah, ça, c'est parfait. Et alors, le quotidien de l'Opéra Studio aujourd'hui ressemble-t-il à ce que tu imaginais avant de venir chez nous?
Oui, je pense, j'imaginais beaucoup de coaching, de répétition, des spectacles, et c'est comme ça. J'aime beaucoup qu'on fait des concerts de lead, des chansons,
oui,
aussi, parce que ça fait une grande partie de ma formation aussi, de l'opéra. Et je trouve que c'est très important pour les jeunes chanteuses, chanteurs de chanter les chansons.
Oui.
Oui, c'est comme... C'est...
Oui, en effet, à l'Opéra Studio et à l'Opéra National du Rhin, bien sûr, il y a une saison lyrique, donc des spectacles d'opéra, mais aussi des concerts avec piano, ce qu'on appelle les heures lyriques, auxquelles les artistes d'Opéra Studio participent tout au long de la saison. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous chanteras justement un lead, ouais, de Korngold. Donc voilà, un lead, c'est une pièce musicale souvent accompagnée au piano et qui est donnée lors de récital. Donc il n'y a pas de mise en scène. Là, c'est la différence avec l'opéra, où alors là, l'orchestre, les costumes, la mise en scène, les lumières, les chœurs, enfin bref, où il y a beaucoup, beaucoup de participants pour faire un spectacle d'opéra. C'est vrai que le concert et la mélodie et le lead sont des moments musicaux beaucoup plus intimes,
oui,
mais qui sont justement très complémentaires des activités d'opéra, finalement. Et c'est vrai que un chanteur est complet s'il participe justement et s'il étudie dans ses différents domaines de répertoire. Ouais, en effet. Ça. Pour revenir à l'opéra, chère Alicia, avant d'être à l'Opéra Studio, donc à l'Opéra National du Rhin, as-tu participé à des spectacles d'opéra justement?
Oui, j'ai fait beaucoup au Royaume-Uni. En fait, une partie de ma formation, je faisais partie d'une compagnie d'opéra pour les jeunes artistes quand j'étais adolescent, en fait.
D'accord.
Et j'ai fait partie du chœur, de la chœur. Mm-hmm. Et puis, j'ai travaillé pour quelques compagnies d'opéra professionnelles aussi, comme Glyndebourne en Angleterre, pour qui j'ai joué dans L'Elysir d'Amore et Dialogue des Carmélites l'été dernier. Alors oui, j'étais familière avec le monde d'opéra, mais j'ai... oui, c'est bon aussi de faire des petits rôles ici.
Oui, ouais, bien sûr, des rôles un petit peu plus courts. Donc, plusieurs rôles te sont confiés cette saison. Est-ce que tu peux, ouais, nous parler de ces rôles?
Oui, cette saison à l'Opéra du Rhin, je joue le rôle de Nerea dans la très beau équipe de Polifemo, de Porpora. On a encore des représentations à Mulhouse et à Colmar.
Oui.
Et c'est un opéra pas très connu en France, pas très connu dans le monde, je crois. Et en fait, notre production est la première en France. Production. Mais la musique est très belle. Porpora était un contemporain de Handel.
Oui.
Alors, c'est la musique baroque. Mais je trouve la manière d'écriture assez spéciale. Les mélodies, les ornements, l'utilisation de l'orchestre. Et ça a été un grand plaisir de découvrir cette musique. Je joue aussi un petit rôle bientôt dans Guerre-Cœur, qui sera aussi une découverte pour moi, mais très différente avec la musique romantique du 19e siècle. Oui, mais j'ai trop hâte de commencer les répétitions.
Oui, ça va bientôt arriver. Là, ouais, d'ailleurs, ouais, ça va commencer très prochainement, au mois de mars. Et donc, quand tu abordes un rôle, comment commences-tu le travail de préparation personnelle? Quelles sont les recherches que tu fais? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots?
Oui, bien sûr. Normalement, je lis la partition et j'ai fait des traductions.
Oui.
Avant. Si besoin aussi les phonétiques, si j'ai besoin d'apprendre lesquelles voyelles sont ouvertes ou fermées, ça c'est
très important,
la chose le plus nécessaire pour moi dans les langues étrangères. Puis j'écoute des bons enregistrements pour comprendre comment la voix fonctionne avec l'instrumentation, le piano ou l'orchestre, et me donner des idées aussi du style, des couleurs, et aussi les choses plus pratiques comme les respirations et les phrases, tout ça. Et puis je travaille la voix d'abord, les choses techniques, comment trouver un bon legato, les bonnes articulations, les dynamiques et ce qui est écrit par le compositeur, la compositrice, mais toujours avec l'intention du texte et un œil sur l'histoire, sur le personnage. Et puis je regarde le contexte et j'essaie de construire le personnage si c'est quelqu'un d'un opéra.
D'accord. Oui, c'est parfait. C'est un long travail, mais c'est passionnant.
Ouais, ouais.
Et puis, est-ce que tu peux nous dire à quel moment de ton processus d'apprentissage tu vas travailler avec un chef de chant, comme Hugo, présent ce matin dans ce studio? Mm-hmm. Que t'apporte le chef de chant dans le processus de préparation d'un rôle?
Oui, je pense que c'est très bon d'avoir des autres oreilles.
Oui.
J'aime être assez bien préparé avant que je travaille avec un chef de chant, parce que pour moi, je trouve que c'est mieux de les utiliser pour être les autres oreilles, de indiquer les choses qu'on ne peut pas entendre,
oui,
mais aussi de donner des autres idées du style, des autres idées des couleurs et ce qui est un succès avec mon interprétation et ce qui a besoin d'un corps de travail.
D'accord, c'est ça. C'est la personne extérieure qui donne son avis musical sur ce que tu lui proposes déjà.
Ouais.
Et donc, c'est un travail d'équipe. Tous les deux, c'est comme régler une Formule 1, en fait.
Ouais,
toi, tu
sûr.
Arrives, ta voiture, elle est déjà en très, très bon état. Et puis, on a un super technicien du style et de la voix qui est là pour t'écouter et te guider vers une interprétation encore plus affinée, finalement, en fonction de tout ce que tu as déjà travaillé toi et en fonction de ton cheminement artistique. En fait, c'est aussi un compagnon artistique, le chef de chant. Ce n'est pas juste, comme on peut imaginer peut-être encore, j'espère que maintenant ça disparaît, un pianiste accompagnateur. Ce n'est pas ça du tout. Un chef de chant, c'est beaucoup plus que ça. Nous arrivons à un moment où vous allez écouter un deuxième extrait que tu as choisi, parce que ces extraits sont choisis toujours par les invités. Donc Alicia Ancho, mon invitée de ce jour, a choisi de vous faire écouter un extrait de Samuel Barber, et je vais te laisser donner le titre en anglais, comme ça l'accent sera bien meilleur, bien sûr.
C'est Sure on the Shining Night.
Nous écoutons.
Watch for me, this night, the dawn.
Nous venons d'écouter Barbara Alexander dans ce magnifique Show on the Shining Night de Samuel Barber, extrait que notre invitée Alicia Ancho a choisi de nous faire écouter aujourd'hui. Quelle plénitude, quel bonheur, quel calme. Et ça me fait penser, enfin, j'ai envie de te poser la question, mais que fais-tu finalement pour te détendre? Peut-être tu écoutes du Samuel Barber, je ne sais pas, quand tu ne travailles pas un rôle.
Oui, peut-être, oui, je trouve cette chanson très, très belle, très, aussi le poétrie est très...
Le poème est très très beau.
Pour moi, il parle de comment trouver sa place dans la vie et la transition entre cette vie et la prochaine.
Oui.
Mais pour détendre, j'aime un bon repas, un peu du vin, un bon film.
Ah, mais c'est bien, c'est une bonne vivante, c'est bien.
Oui, quelque chose, un film pas trop triste.
Non, mais la vie ne doit pas être triste. Ouais. Il faut la rendre la plus gaie possible. Ça, c'est bien vrai. Mm-hmm. Tu as bien raison. Tu es une philosophe, Alicia.
Je ne sais pas, mais peut-être.
Ah oui, je crois. Et donc, la philosophie que tu as, la gaieté, bien vivre, écouter de la belle musique, sont des qualités que tu as et qui t'accompagnent. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune chanteuse qui voudrait embrasser la carrière? Enfin, à ton avis, quelles sont les qualités requises pour être chanteuse d'opéra?
Oui, bien sûr, c'est nécessaire d'avoir une passion pour la musique et pour la voix. Mais la chose, pour moi, dont les gens ne parlent pas suffisamment, est la nécessité d'être contente toute seule. C'est bizarre parce que, comme chanteur, on se rencontre beaucoup de gens et on parle avec beaucoup du monde et on a besoin d'avoir beaucoup d'énergie avec les autres quand on chante sur scène ou dans les concerts. Mais en fait, on passe beaucoup de temps seul quand on pratique, on voyage dans les chambres d'hôtels différents, dans les villes inconnues. Et pour moi, je pense qu'il faut être assez indépendant et avoir... une mentalité très forte, très déterminée. Bien sûr, c'est nécessaire aussi d'avoir des amis, des relations qui nous soutiennent. Mais comme soliste, on travaille pour nous-mêmes. Et je crois que ce n'est pas un chemin facile, mais il faut avoir vraiment l'amour pour la musique et aussi l'indépendance, je crois.
Oui, mais tout à fait, tu as parfaitement raison de dire ça. Parce qu'en fait, quand on va voir un spectacle et qu'on voit des chanteurs sur scène, d'opéra ou d'autres types de répertoires finalement, voilà, on les voit, ils brillent, il y a un public, ils sont applaudis. Avant le spectacle, on s'occupe d'eux. Est-ce qu'ils n'ont pas faim? Est-ce qu'ils n'ont pas froid? Est-ce qu'ils n'ont pas soif? Est-ce qu'il ne faut pas les maquiller? Est-ce que le costume est bien mis? Et tout ce monde qui est autour de vous, c'est vrai. Mais finalement, alors après vous chantez, là vous êtes tout seul, parce que là vous êtes tout seul à défendre votre rôle. Et puis après on se démaquille, on s'en va, on va et peut-être faire un petit repas avec les amis, avec les chanteurs et puis tous les artistes qui ont participé au même spectacle. Et puis voilà, on se retourne dans sa chambre d'hôtel et puis on se demande si on a bien fait ci, si on a bien fait ça, si comment est-ce qu'on sera en forme dans 2 jours pour la représentation suivante, ou bien est-ce qu'il faut mettre le réveil parce qu'en fait demain il faut prendre l'avion pour aller ailleurs pour un autre rôle. Et c'est vrai que c'est passionnant comme vie parce que ça permet de voir du pays, ça permet de rencontrer beaucoup de gens différents. Mais en effet, si on n'est pas centré, si on n'a pas cette capacité à être bien avec soi-même, ça peut être, en effet, je pense, comme tu le disais, assez difficile. Oui. Mais c'est effectivement, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour justement vivre bien cette carrière.
Ou trouver cet esprit. Je trouve... c'est pas facile d'avoir une carrière dans un seul pays, particulièrement au Royaume-Uni ou maintenant. Ouais. Il faut trouver une façon d'être heureux et d'être souvent loin de sa famille.
C'est ça, faut arriver à tisser un lien, un lien suffisamment fort pour que les personnes, même si elles sont éloignées géographiquement, soient près de toi, voilà, pour t'aider dans les moments où tu es toute seule. Oui, ça c'est sûr. Mmh. Ouais, il y a beaucoup, on se pose beaucoup de questions, très certainement quand on est un artiste. Mmh. Ça c'est sûr, c'est le propre de l'artiste. Hein, ce n'est jamais fini. Oui, c'est bien vrai. Je vais te laisser, Alicia, te préparer parce que nous allons maintenant t'écouter dans un lied de Korngold, qui est un compositeur du début du XXe siècle. C'est une lettre d'amour, ce sera chanté en allemand. Au piano, nous aurons notre super chef de chant, Hugo Mathieu, qui attend sagement depuis le début de l'émission que son tour arrive. Alors là, il est content, il a le sourire. Tout va très bien. Donc, nous écoutons Alicia Ancho, soprano de l'Opéra Studio, accompagnée de Hugo Mathieu dans ce très beau lied de Korngold. Belle lettre d'amour composée par Monsieur Korngold et interprétée aujourd'hui par Alicia Ancho, mon invitée, et accompagnée au piano par Hugo Mathieu. Merci beaucoup à tous les deux, c'était magnifique, vraiment. Nous allons clore ce moment d'entretien avec le fameux portrait chinois, chère Alicia, auquel tu as bien voulu te prêter. Et donc, je vais commencer par la première question. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu?
Peut-être un type de chat.
Un type de chat, oui. C'est-à-dire alors
un type de grand chat, je sais pas.
Oui, tu seras un grand chat. Ouais, ok, un d'accord. Grand chat. D'accord.
Je sais pas, les gens me disent que je suis assez gracieuse quand je bouge.
Oui, c'est vrai.
je suis normalement assez calme, mais je peux avoir un peu de férocité si besoin.
Ah, si besoin, si ouais, besoin, si d'accord. Besoin. Ok, d'accord, tu es calme, mais il ne faut pas trop te chatouiller, voilà. Comme on dit en français. Ok, très bien. Si tu étais un peintre ou une, comment on dit, peintresse, je ne sais pas comment on dit, un peintre.
Je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un qui peintre la campagne. Oui. Je ne sais pas le mot en français, un landscape.
C'est très bien. Ouais, ouais. Yes.
j'ai grandi à la campagne et je me sens très, très heureuse quand je suis entourée de verre.
De nature, ouais, c'est de ça, nature. Tu aimes la nature. C'est très reposant, c'est vrai, ouais. Que c'est très ressourçant. Alors, donc, tu as pratiquement répondu à ma troisième question. Mm-hmm. Si tu étais un paysage, bien alors, un paysage de...
Oui, de nature, ouais. Peut-être un bois ou un forêt, oui.
D'accord, de la verdure, de ouais. La verdure et des ouais. Arbres. OK. Et si tu étais un moment de la journée?
Je ne sais pas si ça reflète ma personnalité, mais j'aime bien le matin. D'avoir la motivation pour la journée.
Pour commencer ta ouais. Journée. Ah oui, c'est un très bon moment. Et si tu étais un opéra, alors là, ça va peut-être être difficile de choisir, je ne sais pas, vas-y,
oui.
Dis-nous.
J'ai choisi peut-être Midsummer Night's Dream de Benjamin Britten parce que j'aime beaucoup la littérature, anglaise. Et le Shakespeare. Et je pense que l'opéra montre plein des visages différents des êtres humains.
C'est ça, oui, ah. C'est vrai, ça dépeint. L'opéra dépeint assez bien le genre humain, c'est vrai, c'est vrai. Si tu étais un type d'art...
Oui, je dois dire la musique.
Oh, mais quelle surprise! Bon, d'accord, très bien. Et si tu étais un musée?
Je ne suis pas peintre, mais j'aime beaucoup les arts visuels et les galeries d'art. Il y a un qui s'appelle le Whitworth à Manchester, où j'ai habité pendant 7 années quand j'étais étudiante. J'y allais beaucoup avec mes amis parce qu'on habitait très près. Il y avait des expositions très intéressantes et de toutes les époques, des vieux maîtres à l'art moderne. Alors, je serai peut-être celui-là.
Ce musée-là. Mmh. D'accord. Alors, vient la dernière question à laquelle il est toujours difficile pour mes invités de répondre, c'est-à-dire si tu étais un trait de caractère. Alors, bah, traditionnellement, c'est moi qui réponds à cette question. Mmh. Donc, je vais faire ce que je fais d'habitude avec toi aussi, chère Alicia. Et si je devais te décrire... Alors, un seul trait de caractère, c'est difficile. Donc, je vais en donner quelques-uns. Tu es une personne discrète, talentueuse, travailleuse et gaie. Voilà comment je te définirais. Certainement que c'est beaucoup plus riche que ça, mais disons, avec ces 4 traits de caractère, on a un joli portrait de toi, je pense, assez fidèle. Oui. Bah, je t'en prie. Je voudrais maintenant vous remercier, chère Alicia, cher Hugo, cher Francis, toujours fidèle au poste dans la cabine. Il fait coucou, hein, je vous le dis, parce qu'à la radio, c'est difficilement visible. Et nous allons nous quitter sur une chanson interprétée par Joni Mitchell que tu as choisie, Alicia, de nous faire entendre. Juste avant que notre amour ne se perde, tu as dit que je suis aussi constante qu'une étoile du Nord. Et j'ai dit, constante dans l'obscurité, où cela se trouve-t-il? Ah, telle est la question. Nous vous disons au revoir et nous vous laissons en compagnie de Joni Mitchell.
Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada, oh Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. And then I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. of pains. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched my anchor, part of you pours out of me in these lines from time to time. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I